Aujourd'hui, 21 décembre 2012, cinquième conférence spirituelle de Jackie Parmentier, 20e année. Thème de l'année, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Titre de la conférence, de Paul à Luc, la foi en la bonté de Dieu.
Donc pour ce travail sur Saint Luc, lorsque j'avais une première... réflexion en abordant Saint Luc, je me suis posé la question, mais pourquoi Jésus n'a-t-il pas écrit? Pourquoi Jésus n'a-t-il pas écrit? Quand même, alors qu'il dit tout le temps, hein, vraiment l'importance, demeurez dans mes paroles, demeurez dans mes commandements, faites ce que je vous dis, pourquoi n'a-t-il pas écrit, quoi? Et comme ça, dans ma méditation, je me disais, mais je vois deux solutions, quoi. Deux raisons pour lesquelles il n'a pas écrit. La première, c'est qu'il n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps parce qu'il a été mangé complètement par s'occuper des gens. C'était le jour, la nuit, tout le temps. Il était assailli par... à la fois les gens de l'extérieur, mais aussi sa communauté, hein, les apôtres, d'être avec eux pour qu'il se passe quelque chose pour eux, pour qu'ils soient changés, parce qu'ils savaient très bien que ça allait être très très court. Hein, quand on y regarde, c'est une espèce de météorite, quoi, Jésus. Maximum 3 années de présence, quoi, quand on pense, nous, le temps qu'il nous faut pour comprendre quelque chose, pour se convertir. Parfois, il nous faut 40 ans, 50 ans, 60 ans pour qu'on accueille quelque chose. Et là, il va être pendant 3 ans avec les gens. 3 ans de vivre des conflits incroyables avec les autorités juives, les autorités du pays. Il y a cette espèce d'il est mangé complètement. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'il prendrait le temps de pouvoir écrire l'essentiel de ce qu'il a. Donc il y a déjà ça.
Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens qui savaient écrire?
Ouais. C'est le peuple où l'écriture est la plus importante, Israël. Hein, l'écriture, il y a beaucoup de gens qui savent écrire. Et d'ailleurs, on dit aujourd'hui que... Enfin, beaucoup de gens disent que... Ils ne prenaient pas des textes de Jésus. Moi, je ne crois pas. On prenait déjà de l'époque des prophètes, on prenait tous les récits des prophètes, etc. Il y a dû avoir des textes de Jésus, du vivant de Jésus, sans problème. C'est évident. Hein. Oui, on prend note. De Paul, quelque temps après, il y a toutes ses lettres, il y a tout ça, il y a beaucoup d'écrits. Donc, Jésus aurait très bien pu écrire, mais il n'a pas eu le temps. À mon avis, il n'a pas eu le temps. Et on sait les gens qui sont complètement... livrés, donnés, comme ça, ils n'ont pas le temps d'écrire. Puis il y avait une deuxième raison. Parce que si Dieu invite à la foi, c'est qu'il a la foi. Il a la foi dans l'humanité. Il a la foi dans ses disciples. Il a confiance en eux et il sait, il se remet complètement à eux pour qu'eux écrivent. Et ça, c'est quelque chose. Et ça m'a renvoyé à cette aventure de Noël, quoi. Alors à Noël, hein, on est là, puis on se dit, en effet, c'est toute l'aventure de... on est invité à la foi. Hein, et comme les bergers, on est invité à la foi. Comme les rois mages, on est invité à... Ah, voilà. Et moi, je me suis dit, mais en fait, Noël, c'est d'abord la foi de Dieu. C'est que Dieu fait confiance en l'humanité pour venir. Déjà, il a fait confiance en l'humanité en la créant. Il donne tout par la création. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il vient, il se fait homme. Et il a confiance que les hommes vont entendre, vont accueillir, vont comprendre et poursuivre sa mission. Hein. Il a une mission et il va. Et là, Jésus arrive et en effet, alors on pourrait penser, hein, que c'est vrai que la mission, il y a la croix, il y a tout ça, mais elle fait partie du mystère de ce qu'est Dieu. Et ça n'empêche qu'aujourd'hui, si nous sommes là, c'est que, d'une certaine manière, la foi de Dieu était bien placée. Si nous sommes là à nous réunir, comme il l'a dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis pour quoi faire ? Pour inventer le monde, pour inventer ce monde de la nouveauté, ce monde d'un amour, ce monde d'un respect, ce monde, voilà. Si nous sommes là, c'est que sa confiance était bien... Il y a une réponse à sa foi. Donc, la grande affaire, moi, je crois que c'est d'abord, et c'est sur quoi, hein, on avait vu combien Paul nous avait éveillé à cette affaire-là, que ce qui est premier, c'est la foi de Dieu. Et ce à quoi nous avons à nous fier, c'est en la confiance de Dieu. Hein, et vous savez, hein, vous avez cette image qui est pour moi clé tout le temps, c'est... C'est le poids que je représente sur la terre, hein, et ma foi, moi, c'est à la dimension de moi, puis celle de Dieu, c'est à la dimension de la terre, quoi. La foi de Dieu, la foi de Jésus. Hein, les épîtres de Paul nous ont amené ça, on dit, mais ce qui sauve, c'est la foi de Dieu. Et de se fier, d'avoir confiance en cette foi-là, pour être transformé. Voilà donc hein, Noël comme la révélation de la confiance de Dieu dans l'humanité pour se faire homme, la manière dont il va rencontrer Marie, ça on va le lire, hein, parce qu'on ne peut pas aborder l'évangile de Luc sans regarder ces passages-là. Et... Donc là, hein, démarrer par cette aventure-là, de nous positionner dans la confiance que Dieu nous fait. Qui pour moi est toujours double. Elle est double, elle est toujours double dans la création, le fait d'être, d'exister. Hein, m'est confié quelque chose, là, hein, on dit souvent, hein, m'est confié une personnalité propre, des dons très particuliers que j'ai à faire fructifier pour le service de l'humanité. Et puis cette deuxième dimension qui est celle de, là, qui va être celle encore plus grande. La première, ben, tout le monde, on vit, on existe, on essaye de mener sa vie. Et la deuxième, qui est encore un choix beaucoup plus ontologique, beaucoup plus fondamental, beaucoup plus libre, qui est celui d'accueillir la relation filiale avec Dieu pour lui ressembler. Et ce n'est pas des ressemblances génétiques, là, c'est une ressemblance volontaire. Voici l'homme que je veux être. Hein, quand Jésus proclame heureux les pauvres, heureux les heureux, heureux. Voilà. Donc, hein, cette approche de Noël est sur la foi. Et puis, je voulais redémarrer aussi en se démarrant sur un. Hein, puisque ce qui m'a beaucoup marqué hein, dans cet été avec Vacances et Évangiles, c'est. Dans l'enseignement de Paul, une espèce de radicalité, de clarté du message évangélique qui souvent on prend l'habitude d'édulcorer, quoi. Et tout particulièrement en lisant les évangiles. Je trouve qu'on donne à Jésus un côté pastoral qui fait passer à côté de l'essentiel révélé justement par saint Paul dans les Épîtres. Et donc, je vous rappelle hein, ce qu'étaient les trois axes clés de ce que Paul affirme être l'essentiel de la vie chrétienne. Hein, vous le connaissez bien maintenant. Hein. Première chose, c'est tout ce qu'il dit. tout ce qu'il dit sur la nouvelle création, hein, le premier fondement de l'expérience de Paul, c'est sa conversion. Donc, hein, c'est l'expérience de la conversion, c'est l'accueil, la rencontre de Jésus et l'accueil de l'identité de Jésus dans nos vies qui fait faire l'expérience de la nouvelle création. Donc le fondement, le premier fondement pour Paul, c'est parce que pour Paul, c'est son expérience, le vieil homme ne sert de rien. Et c'est ce que Jésus dira à Nicodème. Hein, mais il y a besoin d'une nouvelle naissance, il y a besoin d'une nouveauté, d'un accueil, d'une nouvelle création. Donc le premier fondement de l'existence chrétienne, c'est la conversion avec cette expérience de la nouvelle création. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et l'expérience, à chaque fois on se fie à soi-même, on retombe dans des vieilles affaires que Paul a bien déterminées par le vieil homme. Le vieil homme, la vieille femme, il n'utilise jamais ce nom-là, hein, mais voilà. Et donc, un des premiers fondements. Tout le temps, réaborder l'Évangile, et c'est ça quand moi je voulais regarder, quand je dis de Paul à Luc, comment ces fondamentaux de Paul vont-ils être traduits, vont-ils être poursuivis ils vont essayer de faire des biographies de Jésus. Deuxième élément, hein, vous vous souvenez du fondamental de la vie chrétienne, après cette expérience de la conversion, de la rencontre de Jésus qui bouleverse, qui change la vie. Le deuxième, c'est, et on avait vu ça avec les lettres de Paul aux Corinthiens, c'est un mystère dont on a parlé tout à l'heure. C'est lorsque je suis faible que je suis fort. Il y a une espèce de chose complètement différente du monde et de la vie du vieil homme. Le vieil homme aime la force, aime le savoir, aime la sagesse, aime la grandeur, aime être supérieur. Et il y a un mystère de l'Évangile et de Dieu, c'est l'éloge de l'humilité, l'éloge de la pauvreté. C'est lorsque je suis faible que je suis fort. Si vous ne prenez pas votre croix et me suivre, vous n'êtes pas digne d'être mes disciples, diront les évangélistes. Et donc le deuxième, c'est ce mystère inouï d'un renversement des valeurs qui va amener justement à la charité. Hein, parce que la charité, c'est toujours de pouvoir faire passer l'autre devant soi, de vivre pour l'autre, de ne pas juger l'autre, comme diront les évangiles, de le penser comme supérieur à nous-mêmes. Et donc on a là le deuxième élément, hein, qui est la théologie de la croix, et Paul disant « Tout ce que je considérais comme étant des valeurs extraordinaires, aujourd'hui je regarde tout ça comme de la balayure. Ce n'est rien à côté de la proximité de marcher dans la pensée et la vie avec le Christ. » Et puis le troisième élément, hein, vous vous souvenez aussi, hein, on avait l'épître aux Thessaloniciens qui nous avait parlé de sa conversion, on avait les lettres aux Corinthiens dans la suite, et puis on avait cette clarté dans l'épître aux Galates où Paul nous dit « Le seul moyen d'être rendu juste, ce n'est pas nos œuvres et tout ce qu'on va faire, la seule justification possible est celle de la foi. C'est de se fier. Et justement, à la foi de Jésus-Christ, hein, c'est d'entrer dans un mode de vie relationnel où je fais confiance, quoi qu'il arrive, parce que Dieu est Dieu. Et en cela, j'entre dans un compagnonnage avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. J'entre en compagnonnage avec une affection, une présence. Voilà donc ces trois éléments clés hein, de cette aventure, de ce que Paul va considérer être l'essentiel du mystère chrétien et d'être chrétien, la rencontre de Jésus-Christ. À la suite de, hein, je vous en parlais déjà tout à l'heure, à la suite de cette grande question de la justification par la foi, on n'est pas rendu juste par tous nos micmacs, par toutes nos intelligences, par toutes nos certitudes, par tous nos bricolages de toutes sortes, du temps pour les Juifs était la fidélité à la loi, on est justifié par ce compagnonnage pas à pas avec le Christ. Je ne sais pas comment il faut vivre demain. Par contre, si je tiens la main du Christ, nous engendrerons un monde qui sera un beau monde. Sinon, nous ne ferons que faire des vieilles choses. Le vieil homme. Donc, et c'est là où Paul, justement, initie cette trinité-là, ces trois valeurs qu'on appelle des vertus, hein, des choses qui ont une force, comme on parle de la vertu des plantes. Hein. Et c'est là qu'il dit, ben, voilà, ce qui va permettre de fonder la vie, maintenant, ce sur quoi on va chercher à vivre, ce sera la foi, cette vie relationnelle avec quelqu'un qui est vivant, qui nous aime. Ensuite, il va falloir basculer dans l'espérance, alors que l'homme va lui être toujours dans la désespérance et l'angoisse de l'avenir. Et là, il va falloir entrer dans l'espérance. Et puis, le troisième élément, c'est que tout ça n'existe parce qu'il n'y a que la charité. Parce que Dieu est charité. C'est son identité même. Dieu n'est pas la sagesse. Bien sûr qu'il est la sagesse. Dieu n'est pas l'intelligence. Dieu n'est pas la puissance. Dieu est l'amour. Donc, on a, voilà, hein, c'est sur quoi on est. Et maintenant, on se retrouve avec l'évangile de Luc à aborder. Donc, je vous remercie d'être là pour. Puis surtout, d'avoir à travailler pour ce temps, hein, depuis Moudière, donc depuis un mois et demi, je suis plongé dans l'évangile de Luc. Ce n'était pas un évangile que j'appréciais énormément, à vrai dire. J'étais toujours, moi, très, très joannique. Hein, l'évangile par excellence, c'est Jean. Et puis, bien sûr, Paul. Voilà, l'évangile de Paul. Mais il s'est avéré, grâce à vous, du fait de faire ce travail. Notre première conférence, c'était sur Marc. J'ai adoré Marc. Passer un mois avec Marc, ça a été extraordinaire. Et puis ensuite, ça a été de passer du temps avec Matthieu. J'ai adoré Matthieu. Et je trouve qu'on ne peut pas se passer de Marc. On ne peut pas se passer de Matthieu. Et maintenant, je vous dis, nous ne pouvons pas nous passer de Luc. Et d'une certaine manière, ça me fait avancer dans ça. On dit, nous ne pouvons nous passer d'aucun écrit du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est un livre extrêmement précieux. Extrêmement précieux. Alors, comment aborder Luc, justement? Alors, Luc, il a, vous le savez bien, hein, parce que il y a dans les évangiles un fond commun. Alors, dans les trois évangiles synoptiques, Marc, Matthieu, Luc, on a un fond commun qui est quasiment l'essentiel de l'évangile de Marc. Hein, quel plus petit évangile. Et donc, en cela où on pense quasiment hein, que c'était une première mouture de Marc a été à l'origine de ces trois-là. Mais il y a des différences, etc. Donc on a ça. Et puis, alors longtemps quand on parle de Luc, on dit que Luc était le disciple de saint Paul. Hein, on dit c'est le, puisque on voit dans plusieurs lettres de Paul, il y a le terme de Luc, le cher médecin. Donc on pense que c'est lui. Alors déjà vous savez hein, que aucun des écrits des évangiles n'ont inédit. Celui, cet évangile a été écrit par Marc, cet évangile a été écrit par Jean, cet évangile... Pas du tout. Aucun des quatre évangiles n'a de signature. C'est tardivement qu'on va se dire, mais qui c'est qui l'a écrit quand même ? Alors on va dire qu'il vient de Luc, on dit qu'on va dire, etc. Après, moi, mes petites études à moi, hein, qui ne sont pas très importantes, je ne pense pas que Luc était un disciple direct de Paul, c'est parce que les écrits sont plus tardifs. D'une certaine manière, il connaît pas parfaitement les lettres de Paul. C'est ce que d'autres disent. Par contre, c'est un être qui aime beaucoup Paul. C'est un disciple qui aime, qui est un chrétien qui aime beaucoup Paul et pour qui Paul est central. Et on va en voir en quoi. C'est en cela où c'est important. Et donc, alors, une première, c'est là où on s'aperçoit que Luc est quelqu'un qui a fait l'expérience de la conversion parce qu'il est capable d'engendrer de la nouveauté. Vous voyez, les gens qui se convertissent, qui vivent de la nouveauté, ils apportent de la nouveauté. Sinon, on ne fait que d'aller chercher du vieux pour essayer de faire du neuf. Alors que, quand on regarde les quatre évangélistes, on est bouleversé de leur capacité d'innovation de ce qu'ils vont apporter. Et là, alors qu'on a déjà deux textes, qu'on a toutes sortes d'écrits on arrive vers les années 80, 90, donc il y a déjà des choses, et là, il apporte des nouveautés extraordinaires. Et entre autres, on va avoir des choses sur ce qu'on va appeler les évangiles de l'enfance, Luc va apporter un éclairage sur d'où vient-il et comment est-il là, ce Jésus. Hein. Et donc, il y a l'affaire des évangiles de l'enfance. Donc, vous avez dans ces extraits de l'évangile de Luc hein, que je nous ai préparé, j'ai mis aussi au milieu, je ne sais pas si vous vous souvenez, un document que peut-être on commentera un peu. J'en ai là, là. Et donc au milieu, j'ai mis justement un document que nous avions travaillé il y a quelque temps, je ne sais plus, qui s'appelle Les évangiles de l'enfance dans les quatre évangiles. Hein, d'essayer de regarder ça. À la lumière du Nouveau Testament, les évangiles de l'enfance à la lumière du Nouveau Testament, et des variantes des manuscrits. Hein, voilà. Donc ça, vous trouverez ça au milieu. Hein, j'ai fait un espèce d'encart sur cette affaire-là.